Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capot Diamant et Curium. Au programme, Klaus Fuchs et Alan Nonmay, physicien et espion atomique. Et gaspillage alimentaire, oser les insectes. Bonne écoute.
Klaus Fuchs et Alan Nonmay, physiciens et espions atomiques, un texte de Gilles Sabourin paru dans l'édition Printemps 2022, numéro 149, de la revue Capot Diamant. Pour mettre au point leur première bombe atomique, les Russes ont pu compter sur leur réseau d'espions. Contre toute attente, c'est au Québec que des événements décisifs ont joué en leur faveur pour obtenir la confiance de précieux collaborateurs. Le 29 août 1949, une explosion atomique russe fait trembler le sol du Kazakhstan et les convictions des militaires américains par la même occasion. Joseph Staline a réussi à maîtriser l'arme fatale, seulement 4 ans après son nouveau rival, les États-Unis. L'engin, surnommé « premier éclair » par les Soviétiques, est une copie du modèle américain déployé à Nagasaki. Or, si l'URSS a également fait le choix du plutonium pour sa bombe, c'est en grande partie dû aux révélations d'un homme clé du projet Manhattan sur le design de cette bombe, Klaus Fuchs, ainsi que dans une moindre mesure, des informations fournies par Alan Nonmay à partir de Montréal sur la production de plutonium. Pour comprendre comment les Russes ont pu obtenir la recette secrète de la part de Fuchs, ce scientifique allemand naturalisé anglais, il faut remonter le temps jusqu'en 1940, et suivre le parcours chaotique des réfugiés en Grande-Bretagne. Une politique d'internement sans discernement. À l'été 1940, les Anglais sont au bord du désespoir à cause de la menace nazie, et le nouveau gouvernement de Winston Churchill a décidé d'interner les ennemis étrangers, c'est-à-dire des personnes de nationalité allemande qui résident sur le territoire britannique. Klaus Fuchs, un physicien allemand anti-nazi réfugié en Angleterre, est interné d'abord près de Liverpool, puis à l'île de Man, avant d'être embarqué dans des conditions exécrables avec environ 7000 hommes dans plusieurs navires à destination du Canada. Fuchs, qui travaillait précédemment dans un prestigieux laboratoire de physique en Angleterre, débarque outre-Atlantique totalement désabusé par sa nouvelle condition. Il sera détenu brièvement sur les plaines d'Abraham à Québec, puis plusieurs mois à Sherbrooke, dans un nouveau camp créé dans un ancien chantier ferroviaire dans des conditions initialement indignes. Les prisonniers allemands sont tous considérés comme dangereux, sans discernement. Les réfugiés juifs et communistes sont ainsi mélangés avec les soutiens du régime hitlérien. Fuchs vient d'une famille anti-nazie qui a subi de nombreuses exactions en Allemagne dans les années 1930. Son père était membre des Quakers, un mouvement religieux chrétien pacifiste, et s'opposait aux fascistes. Klaus et son frère étaient engagés politiquement à l'université en faveur des communistes. Le talentueux physicien n'arrive pas à comprendre son internement parmi des Allemands qui auraient justement souhaité sa mort. Des rencontres décisives. Le destin de Fuchs va alors totalement basculer. dans le camp N de Sherbrooke, il se rapproche d'Hans Kahle, un communiste convaincu, célèbre officier des Brigades internationales durant la guerre d'Espagne, et proche de l'écrivain américain Ernest Hemingway. C'est Kahle qui oriente Fuchs vers son futur rôle d'espion et lui donne les contacts nécessaires en Angleterre. On peut aisément affirmer que le séjour de Fuchs au Québec a été l'élément déclencheur de ses activités d'espionnage. À la suite de pressions de Max Born, son ancien directeur de recherche en Angleterre, Fuchs est finalement libéré et retourne à Édimbourg en janvier 1941. Born aurait aimé garder Fuchs dans son université, mais comme il n'a plus de fonds, il l'envoie vers d'autres physiciens. Le profil de spécialiste de Klaus Fuchs intéresse particulièrement Rudy Peierls à Birmingham. Peierls est le co-auteur du fameux mémorandum sur la possibilité de l'utilisation de l'uranium dans une bombe nucléaire à l'origine du projet atomique anglais. Rapidement, Fuchs est intégré à cette organisation baptisée Tube Alloys. Il est naturalisé britannique dans la foulée et signe le Official Secrets Act, lui permettant d'accéder à tous les documents. Les fuites commencent. C'est lorsqu'il est à Birmingham que Fuchs, grâce à des contacts fournis par Hans Kahle, commence à transmettre des informations secrètes aux Soviétiques. Son contact principal en 1942 et 1943 est connu sous le nom de Sonia. Il s'agit d'Ursula Kudzinski, une célèbre espionne d'origine allemande, sœur d'un contact du réseau des internés de Sherbrooke. Klaus Fuchs collabore sans rechigner car elle est convaincue par ses expériences de vie que les communistes sont les meilleurs garants d'un avenir plus juste. D'ailleurs, l'Union soviétique fait maintenant partie des Alliés et subit l'immense majorité des pertes humaines contre les nazis. Paniqué, Staline veut la bombe atomique, il met en place une équipe de recherche et veut collecter les informations recueillies par ses espions. Grâce aux révélations de Fuchs, les Russes apprennent par exemple que le projet anglais Tube Alloys va déménager à Montréal. Un tournant pour le physicien se produit en 1943, quand les Britanniques et les Américains signent l'accord de Québec. Cette négociation va clarifier le mandat du laboratoire de Montréal et permettre à une dizaine de scientifiques britanniques, dont Peierls et Fuchs, de rejoindre directement le projet Manhattan. Fuchs travaille d'abord à New York, puis, à partir de l'été 1944, à Los Alamos, le site le plus secret, où les détails de la détonation des bombes sont mis au point. Vous écoutez Klaus Fuchs et Alan Nunmé, physicien et espion atomique, un texte de Gilles Sabourin paru dans l'édition Printemps 2022, numéro 149 de la revue Capodiamant. Au cœur du projet Manhattan. Fuchs est un homme très déterminé qui se jette corps et âme dans ce projet. Il est assigné à plusieurs calculs liés à la bombe au plutonium. En même temps, il réussit à établir un contact avec un certain Raymond, nom de code d'Harry Gold, à qui il remettait des documents techniques importants du projet Manhattan. Même lorsqu'il est à Los Alamos, situé à 3000 km de New York, Fuchs réussit à rencontrer Gold lors de sorties à Santa Fe, la ville la plus proche du site. Un fait surprenant que notre recherche a montré est que Fuchs avait des liens avec le laboratoire de Montréal et des personnes habitant la métropole canadienne. Il se rend deux fois à Montréal, une première fois en novembre 1945, pour une rencontre avec des scientifiques du laboratoire, et une deuxième fois en juin 1946, pour plusieurs jours, alors qu'il effectue son voyage de retour en Angleterre. Il n'y a pratiquement pas d'informations sur ce qu'a fait Fuchs à Montréal lors de ses deux voyages. Une hypothèse nous oriente cependant vers un des accusés de l'affaire Gusenko. Alors qu'il était interné à Sherbrooke, le physicien allemand recevait en effet des colis contenant notamment des magazines et des livres de la part d'Israël Halperin. Halperin était un mathématicien canadien interrogé à la suite des révélations d'Igor Kuzenko. Dans son carnet personnel, on retrouvera alors le nom de Klaus Fuchs, son adresse dans le camp de Sherbrooke, ainsi que l'adresse de la sœur de Fuchs à Cambridge, au Massachusetts. Klaus a certainement conservé des liens avec Halperin, qui partage une partie de ses opinions politiques. On ne peut pas non plus exclure qu'il ait croisé Bruno Pontecorvo, physicien du laboratoire de Montréal, collaborant lui aussi avec les Russes. Une seule chose est sûre, Klaus Fuchs n'a pas pu croiser la route d'un autre espion infiltré au laboratoire de Montréal. Cet homme d'origine anglaise, nommé Alan Nunmeh, retourné dans son pays, est sur le point d'être arrêté. Un espion anglais. Alan Nunmeh est sans doute la plus grosse prise des services secrets à la suite des révélations de Gusenko, car son implication montre que les Russes visaient la recette de la bombe atomique. Le Canada, l'Angleterre et les États-Unis plaçaient leurs recherches sous le sceau du secret. Il était donc crucial pour les Russes d'infiltrer le projet Manhattan et son équivalent britannique, le projet Tube Alloys, dont le plus gros laboratoire avait déménagé à Montréal au début 1943. À travers son parcours, Nunmeh était justement la cible idéale des services secrets soviétiques. Le physicien a grandi à Birmingham dans les années 1920 dans une famille qui a subi des revers financiers. Il entre en physique à l'Université de Cambridge en 1929 et s'engage activement dans l'Association of Scientific Workers, un regroupement de scientifiques et d'employés d'université très à gauche, proche des socialistes et des communistes. Nunmeh devient membre du Parti communiste à l'instigation de Frederick Pateman, un autre étudiant en physique. Ce n'était pas un cas isolé. Beaucoup d'étudiants étaient scandalisés par les exactions des fascistes pendant la guerre d'Espagne et se sentaient proches des communistes. Au début de la Deuxième Guerre, Nunmeh travaille sur les radars dans le Suffolk, puis dans le groupe de physique atomique de l'Université de Bristol, sous la direction du jeune et dynamique Neville Mott, le même groupe dans lequel Fuchs avait obtenu son doctorat quelques années plus tôt. En 1942, Nunmeh est recruté par James Chadwick, prix Nobel de physique de 1935 pour avoir découvert le neutron, pour faire partie du projet Tube Alloys. Il rejoint le groupe d'Hans Alban et de Lev Kowarski à Cambridge. Ces deux scientifiques, ayant fui la France envahie, étaient parmi les plus avancés à cette époque dans les recherches atomiques. Fort de leur expertise, ils participent à l'effort de guerre britannique. Nunmeh était donc au cœur d'un des projets militaires les plus importants de la guerre. Le cas Broda. C'est alors qu'il est recontacté par le chef d'une cellule communiste de Cambridge, dont il n'a jamais révélé le nom. Toutefois, tout pointe vers Engelbert Broda, un chimiste d'origine autrichienne, identifié comme étant la source principale de l'espionnage soviétique dans les débuts du projet Tube Alloys par le journaliste russe Alexandre Vassiliev, qui a eu accès aux archives secrètes du KGB. Broda était le principal assistant de Alban pour toute la période de Cambridge, avant le déménagement du laboratoire à Montréal, début 1943. On voit ainsi que le réseau d'espionnage soviétique était déjà infiltré au plus haut niveau dès le début des recherches atomiques. Alan Nunmay arrive à Montréal très tôt en 1943 dans le sillage d'Hans Alban. Il n'est toutefois sollicité par les Soviétiques qu'un an après, à cause, semble-t-il, d'un conflit interne chez les services d'espionnage russes. C'est finalement le fameux colonel Nikolai Zabotin, attaché militaire à l'ambassade soviétique à Ottawa, qui le contacte à la fin 1944 via un intermédiaire. Nunmay se met dès lors à fournir pratiquement toutes les semaines des copies de documents du laboratoire de Montréal qui sont chiffrées et envoyées à Moscou par Gudzenko. L'Anglais est très discret sur ses opinions politiques, même s'il milite à la Canadian Association of Scientific Workers, CASW, présidée par le chimiste Raymond Boyer. Le nom de l'association est directement calqué sur celle dont Nunmay faisait partie à Cambridge dans les années 1930. Le physicien est très actif dans cette organisation dont les membres sont des sympathisants de l'URSS. Ce groupe est idéal pour faire des rencontres stratégiques. Il sera d'ailleurs surveillé de près par les services canadiens. Une baignade à Chalk River. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alan Nunmay ne tarit pas son flux d'informations. Il indique ainsi l'emplacement du projet qui succédera au laboratoire de Montréal, Chalk River. À 200 km au nord d'Ottawa, deux réacteurs nucléaires y sont en construction dès le printemps 1945. Cette information incitera le colonel Zabotin à faire une excursion le long de l'Outaouais pour inspecter et probablement photographier le chantier. Cette expédition était assez périlleuse. La rivière des Outaouais est très large et agitée à cet endroit. Zabotin a certainement utilisé le site de Pointe-au-Baptême, à la limite sud du site de Chalk River, car à l'époque, il était utilisé par les habitants du lieu pour la baignade. Il a cependant dû remonter le courant sur une distance d'environ un demi-kilomètre, prouvant l'importance stratégique d'un tel repérage pour les Russes. En 1946, Nunmay sera finalement condamné à 10 ans de prison, dont il purgera un peu plus de 6 ans, étant libéré pour bon comportement. Il ne donnera jamais d'entrevue pour le restant de ses jours. À sa sortie de prison en 1953, Alan Nunmay se marie avec Hilde Görling Broda, l'ex-femme d'Engelbert Broda, son contact probable dans le réseau d'espions de Cambridge. Il adopte leur fils Paul et lui laisse à son décès quelques documents dont il se servira pour écrire une biographie. L'arrestation d'Alan Nunmay ne sera qu'une répétition avant celle de Klaus Fuchs. Les défections et les projets américains de décryptage de documents russes laissent, par la suite, peu de place au secret. En 1950, l'étau s'est en effet refermé sur le physicien, acculé à se livrer aux autorités anglaises. Au moment de son arrestation, les enquêteurs retrouveront sous son lit son habit de prisonnier du camp de Sherbrooke. Preuve que la rancœur contre le monde anglo-saxon, accumulée au Québec, était bel et bien tenace. Il fut condamné à 14 ans de prison et libéré en 1959, après 9 ans pour bonne conduite. Il est décédé en 1988 à Berlin-Est. Gilles Sabourin est ingénieur en nucléaire, spécialisé dans la sûreté des centrales. Il a travaillé pendant plus de 20 ans pour le Bureau montréalais d'énergie atomique du Canada. Il a consacré 15 ans à mener une enquête sur l'aventure atomique montréalaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a donné le livre « Montréal et la bombe » pour lequel il a reçu le prix Hubert Reeves 2021, accordé au meilleur livre de vulgarisation scientifique, écrit en français au Canada. C'était Klaus Fuchs et Alan Nounmé, physicien et espion atomique, un texte de Gilles Sabourin paru dans l'édition printemps 2022, numéro 149, de la revue Cap au Diamant.
Gaspillage alimentaire, oser les insectes. Un texte de Simon Diotte, paru le 17 février 2023 dans le magazine Curium. Notre planète pourrait nourrir 10 milliards de personnes sans détruire les écosystèmes. Mais il y a une condition, prendre le virage de l'alimentation durable, notamment l'entomophagie. Chaque année, à l'échelle mondiale, le tiers des aliments finissent à la poubelle. Ce gaspillage est très coûteux pour l'environnement. L'élevage industriel du bétail et de la volaille génère environ 75 % des émissions mondiales de GES du secteur agricole, en plus de monopoliser énormément de terres cultivables. L'alimentation durable passe par une réduction significative de la consommation de viande. Selon Béatrice Dagenais, nutritionniste et chargée de cours à l'Université de Montréal, le flexitarisme doit gagner en popularité. Ce régime consiste à remplacer le plus souvent possible les protéines carnées par des protéines végétales, comme les légumineuses et le tofu, ou par des insectes. Une bibite de taille. Les insectes comestibles sont la source de protéines animales la plus respectueuse de l'environnement. Ils génèrent peu de GES, occupent un espace restreint, consomment peu d'eau et se nourrissent même de déchets, pulpes, compost ou fumier. Les fermes d'insectes génèrent peu d'ammoniac, un élément qui acidifie le sol dans l'élevage conventionnel, notamment celui du porc. Mieux encore, les insectes sont difficiles à battre en valeur nutritive. 100 g de criquet contient autant de protéines que la même quantité de porc, et plus que le poulet. À quand le Mac Cricket? Un buzz planétaire. 2 milliards de personnes d'une centaine de pays mangent déjà régulièrement des insectes. Les coléoptères, les chenilles, les abeilles, les guêpes et les fourmis sont les plus populaires. Championne mondiale de l'entomophagie, consommation d'insectes, la Thaïlande compte 20 000 fermes. La population consomme plus de 200 espèces selon les saisons. Dans les marchés publics, les grillons se grignotent comme des bonbons. On en fait aussi des barres d'énergie, des galettes à burger et des smoothies. Aux États-Unis et aux Pays-Bas, des banquets d'insectes connaissent un succès croissant. Chez nous, l'Insectarium de Montréal organise des dégustations de grillons, de ténébrions et de scorpions. On y offre aussi la boîte Entomomiam, des mets gastronomiques à base d'insectes. Un peu d'amandes rôties au sel de sauterelle? Ténébrions québécois. Dans les 6000 bacs bleus de tricycles, une ferme d'élevage d'insectes comestibles de Montréal, 75 millions de ténébrions meuniers se nourrissent de résidus alimentaires comme de la pulpe de carotte. Au bout de 10 semaines, leurs larves sont récupérées et transformées pour en faire des biscuits, des croustilles ou de la nourriture pour reptiles, oiseaux et animaux de compagnie. Leurs excréments, transformés en engrais organique. Citation. Une soixantaine de points de vente canadiens distribuent nos produits, dit Guillaume Renault, cofondateur de l'entreprise. Les produits d'alimentation pour les animaux de compagnie connaissent une forte croissance. Ceux pour les humains commencent aussi à décoller. Fin de citation. Les sociétés occidentales ont un profond dégoût pour la consommation de bestioles, mais cette aversion n'est pas irrémédiable. À une autre époque, les langoustes et les crevettes en rebutaient plusieurs, alors que ces fruits de mer sont aujourd'hui prisés. Le bon conseil? Envisager les insectes comme de minuscules homards. Après tout, ils sont eux aussi des anthropodes. Il n'est d'ailleurs pas rare que les personnes allergiques aux crustacés le soient aussi aux insectes. Oser les insectes en trois étapes presque faciles. 1. Ni vu ni connu. En petite quantité, la farine de grillon passe pratiquement inaperçue. Une cuillère à thé à la fois, on l'ajoute dans nos smoothies, muffins, biscuits, barres tendres, hummus et sauce tomatée. 2. Trop craquant. Cuisiner grillons et ténébrions, les plus faciles à se procurer en supermarché ou en ligne, avec des recettes de l'Insectarium de Montréal. 3. C'est l'amour fou? Prenez un cours pour tout savoir sur l'entomophagie. C'était « Gaspillage alimentaire, oser les insectes », un texte de Simon Diotte, paru le 17 février 2023 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.fzévoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.